Le chef adjoint du pouvoir judiciaire iranien et chef du siège des droits de l'homme du pays, Kazem Gharibabadi, a critiqué la Suède pour avoir abrité et soutenu les groupes terroristes anti-iraniens. Gharibabadi a fermement critiqué le soutien de la Suède à des groupes terroristes comme Al-Ahwaziya et Mujahedin-e-Khalq, organisation MKO, également connue sous le nom de MOK, NCRI ou PMOI, affirmant que la Suède est devenue le centre de commandement du terrorisme anti-iranien en Europe. Il a également fustigé la Suède pour les allégations et les mesures anti-droits de l'homme contre un ressortissant iranien du nom de Hamid Nouri. Gharibabadi a déclaré que Nouri avait été piégé en 2018 à l'aéroport de Stockholm sous prétexte d'une plainte déposée sur la base d'allégations non fondées. L'avocat suédois a demandé au tribunal de délivrer le mandat d'arrêt de Nouri sans enquête adéquate et approfondie, entraînant une évolution du principe de la présomption d'innocence et du droit à la liberté de mouvement par rapport à ce qui précède, a-t-il ajouté. Gharibabadi a également déclaré que Nouri avait été maintenu à l'isolement pendant 21 mois depuis son arrestation jusqu'à la fin des enquêtes, ce qui prouve que son arrestation était arbitraire et sans preuve documentée. Le responsable iranien a accusé la Suède d'avoir violé la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et de ne pas avoir informé l'Iran de l'arrestation. Un responsable suédois a refusé de laisser la famille de Nouri le rencontrer bien qu'ils aient parcouru le pays deux fois, selon Gharibabadi, qui a également ajouté que le responsable suédois avait privé Nouri de l'accès à un traitement médical. Nouri a également été humilié et torturé par des responsables suédois et a été déshabillé devant les agents féminins contre son propre désir, a noté le responsable iranien des droits de l'homme. Gharibabadi avait également fustigé plus tôt ce mois-ci les États occidentaux pour avoir fermé les yeux sur les crimes commis par le groupe terroriste OMK et accordé l'immunité à ses membres. Gharibabadi a fait ses remarques dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi qu'au chef du Conseil européen, de la Commission et du Parlement. En France, la phobie guerrière contre la Russie ne cesse de s'accroître. La menace est jugée comme potentielle et crédible par le ministère des Armées, car la marine russe aurait la capacité de couper ses liaisons connectant l'Europe au trafic Internet mondial. La guerre en Ukraine met en lumière un espace aussi sensible que méconnu. Les fonds marins, aujourd'hui, ils accueillent dans leur profondeur plus de 400 câbles qui connectent les continents en leur fournissant rien de moins que 99% du trafic Internet. En Europe, la route qui concentre toutes les attentions est celle de l'Atlantique, puisque 80% de nos échanges Internet s'effectuent avec les États-Unis. Pour les transactions financières, les mails, les appels, les applis, les fichiers personnels et d'entreprises que nous stockons parfois sans le savoir sur des serveurs outre-Atlantique. Nous y accédons en empruntant donc chaque jour, chaque heure, des câbles sous-marins. Ces câbles en fibre optique sont précieux dans notre quotidien et pour notre économie. Ils sont aussi très onéreux, plusieurs centaines de millions d'euros pièce. Les opérateurs télécoms s'organisent en consortium avec des GAFAM comme Facebook ou Google pour les financer et les déposer. Est-il facile pour une puissance étrangère d'intenter à ces câbles? Oui, puisqu'ils ne sont pas plus gros qu'un tuyau d'arrosage. Il apparaît par conséquent très aisé de les sectionner. La France est reliée par 51 câbles sous-marins. Certains sont plus puissants que d'autres et sont appelés mégacâbles. Il suffit de rompre deux ou trois de ces mégacâbles pour que la France se trouve dans une situation extrêmement difficile, affirme Jean-Luc Vimin, directeur des réseaux internationaux d'Orange. En pleine mer, la position exacte des câbles n'est pas connue du public, mais elle peut être communiquée à des tiers, comme des bateaux, pour ne pas qu'ils percutent ces installations. L'information peut dès lors facilement se retrouver entre les mains hostiles d'une puissance étrangère. Un sujet d'inquiétude pour Orange dans le contexte de conflit que nous connaissons. L'opérateur est partie présente dans 40 consortiums de câbles sous-marins. Les Russes s'intéressent à ces câbles depuis longtemps. Pour ces Jean-Luc Wiman, nous avons identifié un navire espion rattaché au ministère de la Défense russe, ainsi qu'une classe de sous-marins ayant des capacités d'intervention en grande profondeur. Ces moyens sont géolocalisés de façon extrêmement fréquente sur des points de concentration de câbles sous-marins. Pour le ministère des Armées qui présentait mi-février sa stratégie dite de maîtrise des fonds marins, les fonds marins constituent un nouveau champ de conflictualité au même titre que le cyberespace et la sphère informationnelle. La Marine nationale est chargée de surveiller les câbles 365 jours par an, dans les eaux territoriales comme dans les eaux internationales. Pour l'institution, la menace russe est jugée crédible, selon le capitaine de vaisseau Eric Lavaux. Le travail des militaires est de planifier et d'envisager toutes les hypothèses. Cette hypothèse en fait partie, même si on ne prête pas d'attention à la Russie à ce stade, mais on se prépare. La Turquie a commencé la production d'avions de combat sans pilote Bayraktar Kızıl Elma. Selçuklu Bayraktar a annoncé que l'avion de chasse en pilote MIUS allait, un petit effort de prononciation, Muharreb İnsansız Uçak, système d'avion de combat sans pilote en français, est entré dans la chaîne de production et a été nommé Kızıl Elma. On s'attend à ce qu'avant la fin de l'année, l'armée de l'air turque reçoive au moins 10 drones de ce type. À l'heure actuelle, on sait que nous parlons d'un avion de combat sans pilote à réaction furtive et supersonique conçu pour détruire des cibles terrestres, maritimes et aériennes. Le chasseur est équipé d'un moteur à réaction, mais en même temps, il peut voler à une vitesse d'environ 1,2 Mac. Sur les photographies présentées, vous pouvez voir que l'assemblage du chasseur Bayraktar Kızıl Elma a déjà commencé. Cependant, à ce jour, on ne sait presque rien sur les capacités de cet avion de combat sans pilote turc. Selon des sources ouvertes, le chasseur sans pilote Bayraktar Kızıl Elma pourrait utiliser à la fois des missiles et des bombes. De plus, selon certains rapports, le développement d'un chasseur sans pilote a été réalisé sur la base d'éléments du F-35E. Américain. On sait que le drone Bayraktar Kızıl Elma peut rester en l'air jusqu'à 5h30. Renforcement des liens entre la Chine et la Russie, suicide de l'Occident. Selon des sources de Bloomberg, le gouvernement de Pékin discute avec 4 entités publiques de l'acquisition de participation dans des sociétés pétrolières et métallurgiques russes. Les entités comprennent China National Petroleum Corporation ou CNPC, China Petrochemical Corporation ou Sinopec, le plus grand raffineur du pays, ainsi que Aluminium Corporation et China Mini Metals Group. Des pourparlers, selon le rapport, étaient également en cours entre des entreprises chinoises et russes, bien qu'il soit trop tôt pour dire s'ils se termineraient par des accords. Les chances d'accord, cependant, sont assez bonnes. C'est l'un des exemples les plus clairs de bénéfices mutuels. La Chine a besoin de matières premières pour se développer. La Russie a les matières premières et a besoin d'argent. C'est une situation gagnant-gagnant avec un bonus potentiellement crucial. Elle renforcerait encore les transactions non liblées en dollars entre les deux pays. Après la domination mondiale du billet vert et au fil du temps immuniserait les deux pays contre de futures sanctions. Et surtout, ces opérations tisseraient des liens concrets, matériels très importants, une vraie alliance entre les deux pays, une sorte de maillage. La Russie accepte déjà les paiements en yuan pour ses exportations vers la Chine et les entreprises russes sont pressés d'ouvrir des comptes bancaires chinois, a rapporté Axios plus tôt cette semaine. Plusieurs banques russes envisagent également de passer au système de paiement par carte chinois Union Pay après le départ de Visa et Mastercard. Une prise de participation par des sociétés chinoises dans des sociétés pétrolières et métallurgiques ne ferait que renforcer ce processus. Les analystes écrivent sur les efforts d'internationalisation du yuan chinois depuis des années. Ce n'est pas un secret, mais plutôt un aspect important des plans d'expansion mondiale assez visibles de la Chine qui ont inquiété les gouvernements occidentaux. Il semble que ce que font ces gouvernements facilite l'expansion de la Chine. L'Occident collectif a reçu l'ordre de se suicider par les vrais maîtres de l'univers, comme les appelle Pep Escobar. En mer de Chine, les navires français font régulièrement l'objet d'actes d'intimidation, selon l'amiral Vendier. Titre ce 14 mars 2022, OPEX 360, avant de se raconter des histoires. En avril 2021, le sous-marin nucléaire d'attaque Essena, Emerald et le bâtiment de soutien et d'assistance au métropolitain Samsen retrouvaient la base navale de Toulon après un périple de 7 mois dans la zone Indo-Pacifique. Et lors de cette mission dite d'intérêt stratégique, les deux navires français s'aventurèrent en mer de Chine méridionale dont l'appartenance est revendiquée dans sa quasi-totalité par Pékin. Pourquoi une telle mission? Pour enrichir notre connaissance de cette zone et affirmer que le droit international est la seule règle qui vaille, quelle que soit la mer où nous naviguons. Nous entendons protéger notre souveraineté et nos intérêts, avait commenté Florence Parly, la ministre des Armées, en rappelant que la France était également une nation de l'Indo-Pacifique. Mais comment? Interrogée à son retour par le quotidien Voir Maton sur d'éventuelles interactions avec la composante navale de l'Armée populaire de libération APL, le pacha de l'émeraude Botha en touche, pas de commentaire, avait il dit. Cela étant, la marine nationale mena d'autres missions en Indo-Pacifique l'an passé. Le porte-hélicoptère amphibie PHA, tonnerre et la frégate légère furtive FLE, Surcouf passèrent ainsi par la mer de Chine méridionale pour se rendre au Japon, dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc 2021. La frégate de surveillance pré-Rial fut déployée en mer de Chine orientale au titre de l'opération Aeto, menée pour documenter les entorses aux sanctions internationales décidées contre la Corée du Nord. Enfin, le navire espion du Puy de l'Homme est conçu pour collecter des renseignements d'origine électromagnétique, ROM, navigua dans le détroit de Formose ou de Taïwan, selon une confidence faite par Madame Parly au sénateur. Alors que la Chine est prompte à protester dès qu'un navire étranger navigue en mer de Chine méridionale ou passe par le détroit de Taïwan, aucun incident concernant les bâtiments de la Marine nationale n'a été officiellement signalé durant cette année 2021, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'y en a pas eu. En effet, dans un entretien accordé à la revue Conflit, le chef d'état-major de la Marine nationale, SEM, l'amiral Pierre Vendier, a affirmé que les actes d'intimidation en mer sont devenus réguliers. Ainsi a-t-il continué. À trois reprises cette année, une frégate chinoise a coupé la route d'un navire de guerre français en passant à 50 mètres de son entrave. Et d'ajouter, c'est leur façon de signifier que nous sommes indésirables en mer de Chine. Heureusement, le commandant a pour consigne d'éviter l'escalade tout en réaffirmant le respect du droit international, a souligné le SEM. Depuis le 31 janvier, la frégate flotte de surveillance vendémiaire assure une patrouille en mer de Chine méridionale. Est-ce cette dernière qui a fait l'objet des actes d'intimidation décrits par l'amiral Vendier, point d'interrogation. Dans son dernier compte rendu des opérations, l'état-major des armées m'a indiqué que cette frégate a navigué près des îles Spratly et Paracel, revendiquées par Chine, qui y a installé des capacités d'interdiction et de déni d'accès et qu'elle a mis le cap vers le récif de Scarborough que Pékin dispute à Manille. Le Vendémiaire est suivi de manière professionnelle par la frégate chinoise Zhangjiang, a-t-il cependant précisé. Plus généralement, l'amiral Vendier estime que désormais la mer ressemble à une banlieue où les gens auraient brutalement troqué leurs matraques et tasers contre des kalachnikovs pour régler leurs différends et d'expliquer qu'il en a pris vraiment conscience lors de l'incident entre la frégate Courbé et un navire turc en juin 2020 au large de la Libye. Pour rappel, le bâtiment français avait été mis en joue alors qu'il contrôlait le respect de l'embargo sur les armes. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait arriver entre des marines qui ne sont pas alliées. Un jour, nous serons mis au défi de notre propre volonté et il faudra probablement être capable d'accepter un échange de coups, au moins intellectuellement dans un premier temps, pour faire valoir nos intérêts, les intérêts français partout, fait valoir le SEM. Quoi qu'il en soit, a-t-il continué, le match naval est en train de changer et je n'imagine pas que les pays dépensent autant d'argent pour s'offrir une marine puissante, ne nourrissant pas d'arrière-pensée. Et de souligner que des gens se donnent les moyens de mettre au défi notre réponse et que, par conséquent, il faut que nos forces soient capables de les affronter le jour où cet ordre leur sera donné.